Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Helvetalk, le podcast d'Helvétie Environnement qui vous parle environnement et de solutions durables. De la fleur à la ruche, les abeilles contribuent à notre survie. Aujourd'hui, nous sommes avec Stéphanie Vadens, fondatrice de la fondation Arche des Abeilles, une fondation active dans la protection et la sauvegarde des abeilles, ainsi que pour l'éducation des jeunes publics. Bonjour Stéphanie et bienvenue dans Helvetalk. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours ?
Bonjour Mike, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis apicultrice sur le canton de Genève. Je vais fêter cette année ma 10e année, où j'ai la chance, parce que c'est une chance, de manipuler, de vivre avec ces petites abeilles qui sont juste merveilleuses. Un monde dans lequel j'étais pas forcément prédestinée. En fait, ce sont les abeilles qui sont venues vers moi, plus que l'inverse. Quand j'ai fait leur rencontre, quand je les ai rencontrées, je me suis rendu compte à quel point elles étaient juste fantastiques, merveilleuses, alors qu'auparavant j'en avais peur. Et qu'il était vraiment important de pouvoir changer ma mentalité, façonner celle de mes enfants, et puis plus tard l'envie de l'expliquer, de transmettre, et d'expliquer aux personnes qui m'entouraient l'importance des abeilles.
Quand tu dis, il y a une dizaine d'années, tu as fait une rencontre un peu atypique avec les abeilles ?
Oui, en fait j'ai un essaim naturel qui est tombé dans mon jardin. D'où cette rencontre un peu surprenante, qui au départ peut impressionner, parce qu'il y a quand même une grande partie des abeilles qui vont former un ballon, en fait, un essaim, et qui vont décider de se poser quelque part. Là, en l'occurrence, c'était sur une petite cabane à l'extérieur de ma maison. Bon, c'est vraiment impressionnant hein, quand elles se déplacent.
Donc la première réaction, c'est de la peur ?
Ah oui, de la peur, de la protection, prendre les enfants. Mon Dieu, on est attaqué, rentrer à la maison. C'est le warm-up qui se déclenche.
Ne bougez plus.
Ne bougez plus. Et puis finalement, de se rendre compte qu'une heure après, ce petit monde était devenu calme, paisible, elles étaient toutes posées, s'agglutinaient autour de la reine en mode protection absolue. Ben là, tu rentres, pour moi, dans une inconnue totale, et de passer de la peur à « waouh », le questionnement, mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi elles ont choisi mon jardin ? Rencontre avec un apiculteur amateur.
Donc c'est la suite ?
C'est la suite.
Okay.
Qui vient à la maison et qui m'explique que, bah voilà, elles ont trouvé que mon jardin était le spot idéal pour développer une nouvelle vie. Bah, va falloir m'expliquer pourquoi, parce que j'étais pas prédestinée à accueillir des abeilles à la maison. Et l'histoire a commencé comme ça. Ça surprend.
Ok, donc tu rencontres cet apiculteur amateur et puis derrière tu fouilles un peu, tu te questionnes, tu te renseignes sur le monde des abeilles.
Alors déjà, je rencontre avec ce monsieur un passionné, parce que l'apiculture, en fait, peut être vue de façon complètement différente, professionnelle, ce que je représente aujourd'hui, amateur, ce qu'est la majorité, en fait, des apiculteurs sur notre canton de Genève et sur notre Suisse, parce que chez nous, en fait, ce n'est pas considéré comme un métier, comme une profession. Donc ça, c'était un petit peu compliqué pour moi, en fait, au début. Et il faut dire ce qui est, c'est que dans les amateurs, ben, on a de tout. On a des personnes qui sont géniales, passionnées, qui dédient leur temps à leurs abeilles, puis qui vont essayer de faire tout juste avec leur niveau de connaissance. Et puis on a des personnes qui s'imaginent que oh bah c'est cool d'avoir une ruche dans le fond de son jardin parce qu'elles font un geste écologique important pour la nature. Et elles ne savent pas que finalement elles font tout l'inverse, c'est-à-dire que par manque des fois de connaissances, de compétences, parce que l'apiculture devient de plus en plus compliquée, difficile, apportée par une météo qui change, des conditions environnementales qui vont aussi être modifiées, des prédateurs, des nuisibles qui arrivent sur la ruche, qui sont aussi nouveaux, bah, il faut avoir une sacrée compétence et connaissance aujourd'hui pour faire en sorte que ces abeilles soient belles, en pleine santé et pollinisent les fleurs comme
Bien
elles
sûr.
Doivent le faire.
Donc c'est pas reconnu comme une profession, mais ça en est une vraiment à part entière. Donc
ah
ton
bah
conseil,
oui.
C'est de, si vous êtes amateur et que vous n'avez pas forcément le temps, ne vous lancez pas dans cette aventure.
Par pitié, non. C'est vraiment par pitié, le faites pas. Disons que si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui maîtrise les abeilles, qui a des ruches depuis 10 ans, 20 ans, une dizaine de ruches, 5 ruches, mais en tout cas qui a les compétences, qui a vu leur évolution. J'ai envie de vous dire, une personne qui transpire abeille, qui vit abeille, qui a cette connexion en fait avec elle, oui, vous pouvez vous faire coacher par un amoureux en fait de la nature et d'elle. En revanche, si vous n'avez pas le temps à disposition...
Pas suffisamment de temps, ouais.
Et puis, une bonne personne ou de bonnes compétences derrière, il ne faut pas faire ça. Parce que finalement, ça se transforme souvent en catastrophe, en nid à microbes, en nid à maladies, et qui peuvent apporter beaucoup plus de dommages que d'intérêts.
Ok, bah, merci pour l'information. C'est vrai qu'on pense bien faire, en fait, avant tout.
Oui.
En se disant, je vais faire un geste, comme tu l'as dit, pour l'écologie, la biodiversité, en mettant une ruche au fond de mon jardin. Et en fait, non, ça demande du temps, ça demande du savoir-faire. Donc on ne fait pas.
Je vais vous donner un exemple. Souvent on me dit « Ah, mais moi j'aimerais avoir mon miel à moi et c'est pour ça que je veux mettre une ruche dans le fond du jardin. » Et avec beaucoup d'humour, c'est ce que je réponds à toutes les personnes qui me disent ça, mais est-ce que tu aimerais avoir ton lait à toi ? Parce que finalement, est-ce que tu as déjà eu envie de mettre une vache dans le fond de ton jardin ou une vache au-dessus de ton immeuble ou de ton entreprise parce que tu voulais ton miel ? Non, là on me dit « Non mais pas du tout, ça paraît être complètement déconnecté de la réalité. »
Oui, si en fait, c'est un peu le même parallèle, ouais, clairement.
Eh oui.
Donc ne mettez pas d'abeilles ni de vaches chez vous.
Voilà. C'est ça.
Si vous n'avez pas le temps. Donc tu as commencé par une association.
Oui.
Ensuite une fondation.
Oui.
Comment t'es passé de l'un à l'autre ? C'est quoi un peu le...
Eh bien, c'est un de mes parrains qui a mis le doigt, en fait, sur le bouton association-fondation. Pour moi, la fondation, je pense à McDonald's, par exemple.
Okay. Enfin,
je veux dire quelque chose qui est très grand, très gros. Je pense à de belles causes comme Fondation Bonne Mère ou Firme Niche, qui représentent, en fait, des montants, en fait, colossaux et qui vont avoir de belles actions. Et moi, je me trouve toute petite. J'ai jamais eu l'idée, en fait, de faire une fondation. Et puis, la différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'une association, même si elle a but non lucratif, tout ce qui rentre, en fait, dans une association dépend d'une personne physique qui l'a montée. Et il y avait pour moi, en fait, une espèce de flou qui ne me convenait pas par rapport aux parrains, parce que quand mes parrains parrainent une ruche, je ne voulais pas qu'il y ait un soutien de Stéphanie Vuadens par rapport à son apiculture, même si indirectement c'est soutenir mes choix, mais je voulais vraiment en fait que cette ruche soit parrainée aujourd'hui, mais pour demain, dans un futur, et que ce ne soit pas fait encore une fois pour moi, mais que ce soit fait pour une volonté de nature, de préservation, d'écosystème, et que les choses soient extrêmement bien séparées. Quand ce parrain m'a invité en fait à faire cette fondation, il a eu la gentillesse de monter tout le dossier, ce que je n'ai pas fait moi, parce que ça me paraissait, au-delà de mes compétences, c'est très administratif, hein, pour le coup, c'est pas simple. Et heureusement que c'est pas simple, avec beaucoup de contrôle sur ce que l'on fait. Mais tous ces contrôles et toute cette rigidité administrative a fait qu'aujourd'hui, la Fondation Arche des Abeilles a été déclarée d'intérêt public. Et ça, je trouve que c'est la plus belle reconnaissance pour mes parrains, pour nous aussi, de montrer que on est vraiment dans le dur, on est dans le concret, on est dans le réel. La fondation est là pour la préservation des abeilles et leur sauvegarde. Elle n'est pas là pour faire du miel, elle n'est pas là pour essorer les abeilles et leur prendre en fait toute leur nourriture. Et elle est aussi là pour transmettre. Et là, on va parler d'éducation au niveau de la jeunesse. Et je suis très, très heureuse, très fière de vous annoncer aujourd'hui, parce que c'est tout nouveau, mais on a une accréditation officielle pour aller dans les écoles qui nous a été donnée en fait par le DIP, le département de l'instruction publique, pour expliquer aux enfants l'importance des abeilles dans notre écosystème, dans nos campagnes. Et c'est un programme, un diaporama que l'on a fait en corrélation avec leur programme scolaire. Donc
c'est lié au programme.
Oui, on est adapté aujourd'hui à leur discours et à ce qu'ils voient en fait dans leur classe.
Ça se matérialise comment ? C'est un cours d'une heure, deux heures ? Comment ça fonctionne ?
Alors ça peut faire peur pour les enfants parce que oui, quelque part, on pourrait voir ça comme un cours. Et puis 45 minutes pour nous, une période, c'était pas suffisant parce que je voulais quelque chose de très interactif avec les enfants. Premièrement, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Première question, par exemple, c'est de quelle couleur est une abeille ?
Justement, c'est une des questions que j'avais, mais tu me devances. Moi, j'avais déjà participé à des ateliers avec toi, donc c'est un peu triché. Et c'est vrai qu'on pense que c'est Maya l'abeille, finalement.
Voilà. C'est ça. Et tu regardais les photos qui sont derrière nous sur le mur, ce sont les dessins qui ont été faits par les enfants, justement. Et c'est vrai que Maya l'abeille est un magnifique exemple, c'est que depuis qu'on est petit, on regarde des dessins animés où on nous peint des abeilles en jaune et noir. Or, jaune et noir, c'est la couleur d'une guêpe. Nos interventions, en fait, en classe, je les voulais dynamiques, je les voulais rigolotes. Donc, je leur montre des photos de Maya l'abeille pour déjà les déculpabiliser par rapport à leurs connaissances, parce que c'est pas sympa d'arriver en disant « c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste ». Mais aussi, on a fait un petit questionnaire, un jeu de rôle. On a un diaporama qui est très interactif, où on leur montre des vidéos, on leur pose des questions. Il faut qu'ils relient les bonnes informations les unes avec les autres par rapport à leur nourriture ou ce que différents insectes nous apportent, trouver des intrus. On s'amuse avec eux en essayant d'apporter une information qui soit correcte et malgré tout très importante.
C'est important en tout cas de le faire pour les jeunes.
Mm-hmm.
Et surtout, bah, comme tu le dis, c'est essentiel à notre avenir, ces abeilles. Donc très important de le faire auprès des jeunes. Ouais.
Et sans dramatiser, parce que souvent quand c'est important, on arrive avec beaucoup d'informations négatives. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que je souhaite, ce que mes équipes souhaitent, ce qu'on fait avec Tiffany. C'est vraiment d'apporter la joie, du soleil, des petites étoiles dans les yeux quand on leur dit « Tu sais, une abeille, c'est super cool, hein, c'est vraiment très gentil, et elles sont importantes, mais surtout gentilles, elles ne nous agressent pas, c'est un insecte qui est très social. » Les enfants nous regardent avec des yeux ronds comme des billes. Et si je vous dis que les guêpes sont aussi des insectes sociaux. Souvent, on me dit « Non, mais non, Stéphanie, quand même pas, une guêpe, c'est super agressif. » La vérité, pas du tout. C'est notre comportement qui fait qu'on peut rendre l'insecte agressif parce qu'on en a peur. Mais si on n'en a pas peur, elles vivent à côté de nous en toute harmonie.
Très bien, bah, je regarderai une guêpe toujours avec attention quand même. Et je prendrai en considération ce point-là. Depuis septembre, tu as cette accréditation pour former les jeunes à l'école. Ça a commencé quand ce parcours auprès de, finalement, de l'enseignement ?
Je dirais que dans notre cœur, à Tiffany et moi, ça a commencé relativement tôt parce qu'on a la chance d'être soutenus avec nos parents pour plein de raisons complètement différentes. Et pour nous, en fait, la plus jolie chose du parrainage, c'est de faire la visite autour de la ruche. Parce que venir voir une ruche de près, en vrai, de mettre ses mains dedans, de manipuler un cadre, de se rendre compte à quel point elles sont, encore une fois, cool et dociles, où il n'y a aucune agression de leur part, où elles ne veulent pas autour de nous quand on vient ouvrir une ruche, alors que quelque part, on les perturbe, en fait, dans leur vie et dans leur environnement. Ça, c'était la chose la plus importante, en fait, pour nous. Et petit à petit, nos parrains sont venus avec leurs enfants, en voyant que la première fois, effectivement, elles ne sont pas agressives, on peut peut-être prendre nos enfants puis venir avec. Moi, je pense vraiment qu'on peut dire que Tiffany et moi, on se remplit du bonheur des enfants quand ils viennent nous trouver parce qu'on a des questions qui sont toutes choues, très innocentes, qui font plaisir. Et surtout, ils repartent avec des petits mots. Stéphanie, je te promets, plus jamais j'écraserai une abeille, je ferai attention. J'ai des parents qui me disent, ils sont rentrés à la maison, ils ont mis une coupelle d'eau dehors avec un petit bouchon de liège pour que les abeilles puissent boire parce qu'il faisait trop chaud. C'est magnifique.
C'est une victoire déjà en soi, ouais. Moi, je me souviens l'avoir fait justement ensemble il y a une année. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi paisible de découvrir une ruche. Enfin, il n'y a effectivement pas de... C'est pas violent, c'est très, très apaisant, ouais. Donc c'est une belle découverte. Faites-le pour ceux qui vont nous écouter. Venez au rucher faire l'expérience.
Et c'est pas forcément évident. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai ouvert une ruche, j'étais franchement apeurée, j'étais pas du tout sereine, parce que je ne savais absolument pas du tout à quoi m'attendre. Mais, et puis bon, il y a quand même 40 000 abeilles dans une ruche. Donc c'est vivant, c'est dynamique. Il n'y en a pas deux qui sont en train de vous regarder. Et aujourd'hui, en fait, quand j'ouvre une ruche, c'est un moment de paisible. C'est devenu un moment pour moi, alors qu'avant, ça pouvait être un stress. Et j'ai en tête un monsieur qui a parrainé une ruche pour son petit-fils en me disant « Stéphanie, il faut que je vous l'amène parce qu'il est vraiment phobique et de tout ce qui vole. » Ok, bon, alors c'est pas gagné. On verra, on va voir comment ça va se passer. Il est arrivé dans la cabane. J'ai eu un jeune homme d'une dizaine d'années hyper stressé, très tendu, qui avait vraiment beaucoup de peine. Rien qu'à regarder les photos, je voyais qu'il y avait un certain dégoût.
Une crainte.
Ouais. Mais encore plus qu'une crainte, enfin, il y avait un dégoût, il y avait vraiment quelque chose qui le rebutait très fort. Et au moment en fait, de mettre la combinaison pour aller voir la ruche, il m'a dit « Non mais moi j'y vais pas. » J'ai dit « Écoute, tu fais comme tu veux. Si jamais c'est ballot d'être arrivé jusque-là et de ne pas essayer, mais tu peux te cacher derrière moi. Puis, si tu le sens, tu t'avances, tu regardes, mais là t'es protégé, t'as les gants, t'as la combinaison. C'est comme si t'avais un scaphandre et un métier qui ne peut rien t'arriver. » Et je vous jure que j'ai fini la visite. Il était coincé, parce qu'il était coincé, entre la ruche et mon corps, où il a fait la visite devant moi. Petit à petit, il s'est approché en disant « Mais c'est vrai, elles sont comme ça ?» Et oui, c'est vrai, elles sont comme ça.
Ouais, c'est chouette.
Oh, c'est fantastique.
Qu'il puisse arriver à changer comme ça d'avis, puis d'être plus à l'aise surtout. C'est super important. Mm-hmm. Je lisais sur ton site internet que depuis les années 90, un peu plus de 100 000 colonies avaient disparu.
Alors là, tu me parles, sauf erreur de 2011, j'ai pas mes notes sous les yeux, mais il y a eu une missive en fait de la part de l'OFSP, merci beaucoup. Donc sauf erreur, c'est en 2011 et en 2015 que l'OFSP a fait deux communications différentes. 2011, on a perdu plus de 50% de notre cheptel d'abeilles en Suisse.
Wow.
Dramatique. 2015 était une mauvaise année aussi. En revanche, beaucoup moins. Et c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont quand même super méga alarmants. Même si la Suisse n'est pas en danger, même si on n'est pas en pénurie d'abeilles aujourd'hui, bien au contraire. Et puis si je parle du canton de Genève, on est même dans une situation un peu inverse. Il y a trop de ruches maintenant. Et encore une fois, là je reviens sur le fait qu'il faudrait durcir un petit peu en fait les lois. Une ruche, ça se met pas n'importe où. Quand je vois des personnes, médecins, là hier on m'a téléphoné en me disant bah oui, tiens, je connais quelqu'un, il a mis une ruche sur son balcon. Non, mais sur un balcon, par pitié, au secours, pas ça. Elles ont besoin d'espace, elles ont besoin de fleurs, elles ont besoin aussi de ne pas déranger leurs cousines, copines qui sont les abeilles sauvages. Il y a un proverbe qui dit chaque chose à sa place, une place pour chaque chose. Je pense qu'il faut respecter aussi cet équilibre de la nature. Les abeilles domestiques, on les a toujours vues en fait à la campagne. Et pourquoi ? Dans un vieux tronc d'arbre ou dans un volet caché derrière une maison où on ne va plus ? Parce qu'elles ont une ressource de nourriture qui est suffisante, parce qu'elles sont tranquilles et qu'elles ne sont pas dérangées. Et elles ont besoin en fait de ce côté très paisible pour se reproduire.
Donc à ce côté, finalement, en fait, recherche du calme, de la campagne. Mm-hmm. Ne le faisons pas en ville, quoi, tout simplement. Enfin, évitons ce genre de pratiques qui d'ailleurs se développent de plus en plus. Hein, quand on voit, une fois je vois à la COP, miel urbain.
Oui.
Alors, je pense que c'est lié à ce type de pratique, en fait.
J'aime pas donner des informations négatives. Je dis juste que, d'expérience aujourd'hui, avec mon recul et mes colonies, les colonies qui vont le mieux, ce sont les colonies qui sont le plus en retrait dans une campagne tranquille, paisible.
Okay.
Et ça m'est arrivé de mettre des ruches toujours dans la campagne genevoise. Hein. En revanche, il y avait une route à côté et puis qui était empruntée souvent par voiture et camion. Et il y avait énormément d'essaimage en fait sur ces ruches. Elles ne se développaient pas de la même façon. Donc, j'ose même pas imaginer si je les avais, elles, positionnées en pleine ville, bruit, circulation. Pour moi, manque de fleurs, hein, parce que quand même... Il faut savoir qu'une abeille, quand elle va se nourrir, elle va à 700 mètres immédiatement trouver ce qu'il lui faut dans sa couronne, dans un diamètre autour de sa ruche. Et si elle ne trouve pas, elle peut aller jusqu'à 5 km. Positionner une ruche dans la campagne genevoise ou vaudoise, enfin la campagne que vous souhaitez, et qu'elle puisse se rouler en fait dans les fleurs en sortant de sa ruche, elle va kiffer sa vie, elle sera heureuse.
Ouais, c'est idéal, elle ne va pas tomber plus trop s'épuiser pour aller chez la nourriture, ce qui fait du sens.
Voilà. Maintenant, si vous la placez en plein centre-ville où elle doit pédaler pour aller chercher ses petites fleurs dans un parc puis dans un autre, où on a quand même le lac, hein, ça lui impute en fait, en tout cas la moitié de son cercle d'alimentation, personnellement, je trouve que ce n'est pas juste.
Ok. Je lisais, moi, j'ai vu récemment dans l'actualité, notamment c'était sur ta page Instagram, le frelon asiatique se répand.
Oui.
Il y a eu 12 nids détectés et signalés pendant l'été. Est-ce que ça, c'est une crainte, un fléau ? Est-ce que ça peut être nuisible pour les abeilles ?
On est en 2023. Le frelon asiatique, on en parle depuis en tout cas 19-20. On a vu les premiers arriver sur Genève, où il n'y a pas vraiment eu trop de réactions, parce qu'on se dit, ouais, bon, il y en a un, c'est pas très grave. Tout en sachant qu'on avait vu le développement chez nos amis à côté et que c'est vraiment un problème et un fléau. En termes de nid, il y a une communication qui se fait, pas forcément toujours la bonne. On a passé les 75 nids détruits sur Genève. Donc on est vachement loin des 12 et il y en a encore beaucoup qui sont présents. Il faut savoir que le frelon asiatique versus le frelon européen a un développement qui est différent. Dans un nid de frelon européen, on va trouver à peu près 300 individus par nid, alors que pour un nid de frelon asiatique, on peut monter jusqu'à 13 000. C'est pas le même bébé. Hein. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est que les fondatrices vont se sexuer fin d'hiver, nidifiés. Et au printemps, en fait, ces fondatrices vont aller recréer des nids dans notre campagne et il peut y avoir plusieurs fondatrices dans un nid. Alors que dans une ruche, nous n'avons qu'une seule reine qui va pouvoir vivre. Il y a une prolifération qui va être importante. On la vit, en fait, depuis maintenant 3-4 ans sur Genève. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Surtout qu'il n'y a aucune directive stricte pour le comportement que les apiculteurs doivent avoir face au frelon asiatique. Mais il n'y a pas non plus de directive donnée par l'OCAN, l'Office cantonal de la nature et de l'environnement, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec ça.
Donc le risque, finalement, qu'une ruche se retrouve face à un frelon ou à un frelon asiatique, c'est quoi ? C'est une attaque ? C'est potentiellement des pertes ?
C'est une attaque. C'est plus que potentiellement des pertes. On va jusqu'au décès de la ruche. En fait, le frelon, il va se comporter comment ? Déjà, ils ont un vol qui est complètement différent de celui des abeilles. Donc, ils se mettent en vol stationnaire devant la ruche. Imaginons un hélicoptère. Ils sont hyper stables. Et en fait, ils vont attendre la sortie des abeilles pour les prendre. Ils vont les disséquer. En fait, ils partent avec une partie de leur thorax parce que c'est la partie la plus musclée au niveau de l'abeille. Et ils ramènent en fait cette partie sous forme de bouillie pour aller nourrir en fait les larves du nid.
D'accord, enfin, donc c'est vraiment ouais, c'est pour se nourrir.
Finalement. Voilà, alors je dis il, ce sont des femelles, hein, c'est comme les abeilles, elles plutôt. Et le problème étant, c'est que bah, si tu as un nid à côté, voire deux ou trois, parce que pourquoi il n'y en aurait qu'un seul, s'il y a une source de nourriture qui s'appelle des ruches, bon, ben, on peut avoir plusieurs nids parce que plusieurs fondatrices, ils sont capables, dans l'ensemble, en fait, de tuer, de décimer différentes ruches.
Une ruche, oui, bien sûr.
En revanche, ils vont s'attaquer aux ruches les plus faibles. On repart dans un espèce de tri sélectif que j'explique aux enfants, qui est souvent très dur, en fait, à accepter de la part de la nature. C'est que nous, si on a un problème de santé, on a médecin, hôpitaux, qui nous répare et on est reparti pour un tour. Dans la nature, ça se passe pas du tout comme ça, c'est qu'on va vraiment éliminer en fait les plus faibles. Donc il y a un côté qui est dramatique, triste et qui nous peine, nous en fait apiculteurs. En revanche, s'ils éliminent les colonies les plus faibles, déjà peut-être que... Enfin, je peux même pas tourner ça en point positif, mais j'essaye de le faire en me disant que tout d'un coup, ce sont des colonies qui ne développeront pas de maladies parce qu'elles sont plus petites. Mais tout ça pour dire que si la colonie est forte, si les abeilles sont saines, si l'apiculteur a bien travaillé, si on n'a pas ponctionné trop de miel, si elles ne sont pas affaiblies, elles auront le potentiel pour lutter contre l'envahisseur qu'est le frelon. Si maintenant votre colonie est plus faible, parce que les bons gestes n'ont pas été apportés, alors là, c'est perdu d'avance pour la colonie.
J'ai vu récemment qu'il y avait maintenant pas mal de méthodes pour soit traquer les nids de frelons, et même des procédés pour éviter les attaques. Est-ce que tu peux nous en parler?
C'est très controversé, parce qu'il faut aussi en discuter justement avec l'OCAN et les personnes qui s'occupent de la faune et la flore. Et là, on a un groupe qui s'appelle la Task Force. Et d'ailleurs, je vous invite, si jamais vous voyez un frelon asiatique, à faire une déclaration sur frelonasiatique.ch. C'est lu par les gardes-faunes. Et en fait, cette information, elle est relayée aussi au pôle invertébré. Donc, il y a deux personnes qui gèrent ça étroitement pour détecter les nids. Et ensuite, la décision est prise. Soit le nid va être détruit, ou alors mettre des mesures en place pour essayer de piéger les fondatrices. Le problème, c'est que pour piéger les fondatrices aujourd'hui, on n'a pas encore de piège assez sélectif pour se dire « je prends que l'asiatique et je prends pas le frelon européen ou je ne vais pas prendre d'autres insectes ». Donc là, il y a une controverse, parce qu'ils font quand même partie de notre écosystème, on en a besoin. Même si on ne les aime pas, on en a quand même besoin. Donc c'est pas simple, en fait, comme problème.
C'est un peu expérimental, voilà.
Malheureusement, en fait, c'est expérimental plus. Expérimental parce qu'on n'a pas encore une fois de directive précise. Par contre, plus parce que, par exemple, Julie, qui fait un travail remarquable au niveau du pôle invertébré avec son équipe, on va capturer en fait des frelons, les équiper avec des émetteurs. Cet émetteur nous permet par télémétrie de les suivre jusqu'au nid et de détruire en fait les nids qui sont déjà existants. Par exemple, Parc Lagrange, le nid était à 35 mètres de hauteur. Les pompiers sont intervenus avec une échelle super méga périlleux parce que vraiment haut. Pour
les 35 mètres, il faut monter, oui, effectivement.
Il faut y aller. Et ils ont réussi, en fait, à détruire le nid. Mais est-ce qu'on a eu toutes les fondatrices? Point d'interrogation. Ben non, on ne sait pas, on n'est jamais sûr. Il y a des moments, en fait, où on doit intervenir. Donc, ils interviennent soit tôt le matin, soit tard le soir, en espérant qu'ils soient tous rentrés. Mais si ce n'est pas le cas et qu'on en a laissé une, bon, ben, une, ça veut dire un nid l'année prochaine.
Donc, ainsi de suite.
Eh ouais.
OK. Bon, c'est expérimental et il y a quand même des belles actions qui sont initiées et mises en place. Donc, ça va vers le positif.
Ça va vers le positif. En revanche, il faudrait mettre beaucoup de temps à disposition. Aussi, alors là, pour le coup, un petit mot pour toutes les personnes qui possèdent des ruches. Chaque personne qui possède des ruches devrait se soucier de savoir s'il y a des frelons autour de ces ruches, au moins pour faire les déclarations dans un premier temps, et puis aussi donner des indications dans quelle direction sont partis les frelons pour essayer de détruire les nids. Chacun doit s'y mettre.
Très bien. Bah, merci en tout cas pour toutes les informations. Donc c'est frelonasiatique.ch.
Exactement.
Pour signaler effectivement les frelons pour les personnes qui nous écoutent. Alors on a beaucoup parlé de l'association, la formation auprès des jeunes, notamment des frelons à l'instant. Et comment ça fonctionne une ruche?
Alors une ruche, c'est très très féminin. Je te donne des grandes proportions.
Ouais.
Hein. À savoir que tout ce que je dis là, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, il y a toujours des exceptions. On a à peu près dans une ruche 40 000 abeilles. Dans les proportions pour 3 000 mâles et une seule reine. La reine, souvent on pense que c'est elle qui prend, qui est la pièce maîtresse et qui va prendre toutes les décisions. La reine est la pièce maîtresse dans le sens où c'est la seule qui est capable de se reproduire, c'est la seule qui est sexuée et qui pourra en fait pondre des œufs qui deviendront larves, parce qu'en fait elle va pondre un œuf qui au bout de 3 jours éclot. Une larve va en sortir et ensuite cette larve va avoir tout un cheminement de vie à l'intérieur de la ruche. Elle va y rester à peu près 3 semaines, 21 jours, et ensuite elle sortira pour devenir butineuse. Donc celle que l'on voit au passage dans la nature, ce sont nos petites mamies. des toutes vieilles abeilles. Donc plutôt que de les écraser, encore une fois, il faut les protéger parce qu'elles sont super méga importantes et qu'à partir du moment où elles sortent de la ruche, elles mettent leur vie en danger, pour de vrai. Elles peuvent se faire manger par un oiseau, elles peuvent se faire écraser par un humain, elles peuvent se faire contaminer par une fleur empoisonnée, elles peuvent malheureusement perdre leur direction s'il y a une intempérie, un grand vent, ou alors il y a une rareté au niveau de la nourriture et qu'elles sont parties à plus que 5 km et se perdre. Donc à partir du moment où elles sortent de la ruche, il y a vraiment mille et un dangers. Et pourtant, ce qu'elles vont faire pour nous est juste remarquable, c'est qu'elles vont aller chercher le nectar sur les fleurs, récolter aussi du pollen parce qu'elles en ont besoin pour leur alimentation, pour leur vie, pour leur développement. Et c'est à ce moment-là où, malgré elles, elles sont responsables de la pollinisation des fleurs qui nous donne 80% de fruits et de légumes.
Ok, donc on n'écrase pas, on fait super attention.
On n'écrase pas les abeilles. On fait super attention aux abeilles.
J'avais en préparant le sujet hier, j'avais une question par rapport à ces reines. Comment on devient reine ?
Eh bien, c'est ce que je dis encore une fois aux enfants. On devient reine en fonction de ce que l'on mange. Donc si, les enfants, vos parents vous donnent à manger tout ce que vous aimez, hein, des pâtes, des pizzas, des bonbons, des glaces, du chocolat, et vous allez devenir comment ? Une petite idée, Mike ?
J'ai une idée, ouais.
Pas en super bonne santé.
Non, pas en santé, ouais.
Alors qu'une alimentation variée est extrêmement importante pour que, justement, on puisse se développer et qu'on soit bien. Donc, trêve de plaisanterie, la reine, en fait, est la seule qui va recevoir uniquement et strictement que de la gelée royale comme nourriture tout au long de sa vie. Et c'est ce qui va faire que cet œuf pondu par une reine, vu qu'il est nourri exclusivement avec de la gelée royale, va se développer et se transformer complètement différemment d'un œuf qui a été nourri avec du miel et du pollen, ce qu'on appelle du pain d'abeille, qui est la nourriture que les autres reçoivent, les autres étant les faux-bourdons, les mâles, ou les ouvrières, les femelles.
Et du coup, c'est une sélection naturelle sur un œuf ?
Je n'ai pas les compétences pour te dire comment ces œufs sont choisis et j'ai encore rien lu aujourd'hui qui m'explique comment les ouvrières vont avoir choisi tel ou tel œuf. Donc, est-ce que ça se fait de façon complètement aléatoire ? Est-ce qu'elles savent qu'à la base, il y a des œufs qui ont plus de chances d'arriver à maturité pour devenir reines que les autres ? Franchement, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça se fait au hasard, mais encore une fois, ça c'est mon propre avis, parce que quand elles ont décidé de changer une reine, on n'a pas qu'une seule cellule royale, on peut en avoir 5-6 par cadre, et ça peut se développer sur 3-4 cadres, donc c'est rare d'en avoir une, généralement on en a une dizaine.
D'accord.
Donc j'ai quand même envie de dire qu'il y a une notion de loterie en fait dedans.
Ok, et donc une dizaine de reines, ok. Sur ces différents cadres.
Une dizaine d'œufs qui vont être nourris exclusivement avec de la gelée royale, donc ils vont se développer pour devenir des reines. En revanche, il va se passer quoi quand la première de toutes ces dames va sortir sur les 10 de la ruche ?
Ouais, je me dis bien qu'il va forcément une... Elle va s'imposer.
Elle va s'imposer, plus que s'imposer. La première qui va sortir va aller piquer les autres reines dans leur cocon pour les tuer, pour les éliminer.
D'accord. Donc c'est premier arrivé, premier servi.
C'est ça.
Ok. Et combien de temps ça vit une reine par rapport à une abeille entre guillemets lambda ?
Alors encore une fois, comme dans les livres, une reine peut aller jusqu'à 5 ans. Après, dans la vraie vie, dans une ruche, il peut se passer mille et une choses qui font que les reines ne vont pas jusqu'à 5 ans. Et d'une façon complètement naturelle, en observant les miennes, j'ai envie de dire que la moyenne, ce serait une durée de vie de 3 ans. Passé les 3 ans, elles commencent à avoir un ralentissement au niveau de leur production, leur capacité à faire des œufs. Et donc, du coup, si les ouvrières trouvent que la reine ne fait plus son job, elles changent la reine.
D'accord. Quand tu dis elles changent la reine, elles mettent tout simplement la reine dehors, en fait ?
Elles la chassent. Ça peut faire partie de l'essaimage. Ou alors elles la suppriment, elles en font une autre. Ou bien elles font une nouvelle reine, et là l'ancienne se dit « Bon, je vais avoir chaud à mes fesses, donc il faut que je prenne une décision », et elle s'en va.
Ah, elle peut aussi s'en aller de son plein gré, en disant...
C'est l'essaimage. Elle peut aussi s'en aller de son plein gré. Mais bon, son plein gré, pas exactement, parce que si les ouvrières ont déjà commencé à faire d'autres reines, on n'est plus vraiment dans son plein gré.
Oui, on est déjà sur des...
Voilà.
Assez fort.
C'est la solution ultime. Là, il faut qu'elle s'en aille.
Donc à partir de quel moment on estime que la production est bonne ? Dans les premières années de sa vie, on suppose.
Une reine, une bonne moyenne de ponte, on est entre 1500 et 2500 œufs par jour.
Ok.
Alors, elle ne fait pas ça tous les jours de sa vie, hein, c'est dans une période qui est bien définie. Et encore une fois, comment les ouvrières vont élever en fait les œufs ? Elles ont besoin de pollen et de miel pour pouvoir nourrir les larves. Ce qui veut dire que si les abeilles
Les butineuses.
Bravo.
Voilà, pardon.
C'est bien, tu suis.
Je suis quand même. Je ne voulais pas dire de bêtises, en fait.
Si les butineuses ne reviennent pas avec du pollen sur leurs pattes, eh ben, du coup, il n'y a pas la matière première, une des matières premières pour pouvoir élever, en fait, les œufs, enfin, les larves.
D'accord.
Donc, tout ça, en fait, c'est un consensus entre les abeilles. Donc, la période va être définie où la reine va commencer sa ponte et terminer sa ponte.
Très bien. Et qu'est-ce qui fait que cette ruche va donner un bon miel ? D'ailleurs, c'est quoi un bon miel, en fait, pour les personnes qui nous écoutent ?
Oui, alors là, on rentre dans quelque chose d'encore plus, enfin, complètement différent et important. Alors déjà, qu'est-ce que cette ruche, qu'est-ce qui fait que cette ruche va être forte ? Cette ruche va être forte et saine s'il y a un joli développement au niveau de sa population. Donc, on a une reine qui pond des œufs en suffisance, mais on a aussi en fait des ouvrières qui ont assez de denrées à l'extérieur pour pouvoir nourrir toute la population. Et puis après, bah, il lui faut de la place ou non pour se développer en fonction de sa force. Maintenant, dès qu'on va rentrer au niveau du printemps dans une période qui est propice à la floraison des fleurs, pour nous, ça sera avril. Bah là, elles sont toutes franc-folles parce qu'elles redécouvrent les premiers nectars, les premiers pollens. Tout est frais, tout est bon. Elles sont en pleine activité et elles vont commencer leur production de miel. Il faut bien noter que la production de miel, c'est la nourriture des abeilles. Donc, si elles font du miel, c'est pas pour qu'on prenne tout. Si elles font du miel, c'est pour se nourrir, elles, et être en pleine forme. Ce qui veut dire que nous, apiculteurs, quand on récolte le miel, il y a une période où on peut le faire, une où on ne doit pas le faire. Et surtout, il ne faut jamais tout prendre. Il faut vraiment laisser ce dont elles ont besoin, en fait, pour sustenter, pour vivre raisonnablement. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est quoi, en fait, un bon miel ? Déjà, il faut comprendre à la base comment les abeilles font du miel. J'ose te poser la question, Mike ?
Bien sûr, avec le nectar des fleurs.
Magnifique. Donc, tu as raison, elles vont aller chercher dans la nature le nectar des fleurs. Donc, ce nectar va être aspiré par la langue des abeilles, conservé dans leurs joues et dans leurs jabots. Et quand elles rentrent à la ruche, cette ouvrière butineuse va passer son nectar de bouche en bouche à toutes ses petites collègues, qu'on appelle les chimistes, et qui vont mâchouiller ce nectar de fleurs. Imaginons que j'ai un chewing-gum. Je prends mon chewing-gum, je le mâchouille, je te le passe. Tu le mâchouilles, tu le passes à ta voisine, qui le mâchouille, qui le passe à son voisin, qui le mâchouille, jusqu'au moment où quelqu'un d'entre nous dit « Ok, ça y est, c'est bon, ça a été assez mâchouillé. » On va mettre le nectar, ce mâchouillon de nectar de fleurs, dans une alvéole fabriquée en cire par nos abeilles, les ouvrières, les cireuses. Une fois que ce mâchouillon de nectar de fleurs a été posé, nos ventileuses, qui est un autre rôle en fait d'abeille à l'intérieur de la ruche, va venir se positionner devant, battre des ailes très fort pour augmenter la température présente devant cette alvéole, de façon à faire évaporer une partie d'eau présente dans le nectar, mais aussi dans la salive des abeilles. Et petit à petit, ce mâchouillon de nectar de fleurs va devenir un sirop sirupeux. Quand il sera arrivé à maturité, les cireuses reviennent fermer cette alvéole avec de la cire, et l'alvéole devient complètement étanche, et à ce moment-là, le miel peut être conservé. Maintenant, à quoi reconnaît-on un bon miel d'un miel qui serait, on va dire, un petit peu moins bien? Déjà, il faut laisser ces abeilles butiner librement les fleurs qui sont présentes dans la campagne. Inutile d'avoir quelconque manipulation humaine de quelque sorte, en fait, qui soit, pour que les abeilles puissent faire du miel. Ensuite, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que quand les abeilles vont avoir ramené le miel et fait toute cette préparation, il faut que ce nectar puisse se poser, rester, être operculé. Donc moi, apicultrice, quand je récolte le miel, je vais venir sabrer cette couche de cire pour remettre le miel à nu et ensuite l'extraire. Mais je ne vais pas aller récolter un cadre dans lequel le miel n'a pas été complètement en fait operculé, parce que sinon le miel n'est pas arrivé à maturité. Sauf exception, dans certains cas, on peut avoir un miel mature qui n'a pas été operculé, mais c'est une exception. Donc la règle, c'est vraiment de laisser le temps au temps. Et ensuite, je mets mon cadre dans une machine qui est, on va dire comme une machine à laver, qui tourne très vite, et qui permet par force centrifuge d'extraire le miel de ses alvéoles sans casser le travail des abeilles et sans casser les alvéoles. Le miel ensuite va couler dans un récipient, il faut le filtrer tout doucement, tranquillement, en prenant son temps, et ensuite on va mettre le miel en pot. À quoi reconnaît-on un bon miel alors ? Eh bien, un bon miel, c'est un miel qui est cru et c'est un miel qui est frais. Un bon miel, c'est un miel qui est fait strictement et uniquement par les abeilles, avec strictement et uniquement que le nectar des fleurs ou le miel-là, pour produire en fait ce miel qui est juste merveilleux. Mais on ne devrait pas appeler miel tout ce qui a été chauffé, manipulé, assemblé avec des ajouts de je ne sais quoi, transformé. On n'est plus dans le travail fantastique des abeilles.
Donc pour quelqu'un qui va au supermarché demain, qui va acheter un bon miel, c'est quoi les notions écrites qu'on doit retrouver sur l'étiquette finalement pour avoir un produit comme tu l'as décrit en fait, qui soit complètement réalisé par les abeilles finalement?
Bah alors on est à l'heure de la traçabilité et on a envie de savoir exactement ce que l'on a dans nos pots de miel. Moi, il y a quelque chose qui me choque prodigieusement en fait dans l'étiquetage des miels, c'est que très souvent, vous n'avez pas de date de récolte et il n'y a pas un emplacement précis. Vous avez une région, donc la région voudrait dire un mélange, un mix. Si vous mélangez un miel solide, d'un miel liquide, d'un miel clair, d'un miel foncé, bah, les mélanges accrus seront pas homogènes, donc pas trop vendables. Alors, comme on veut un mélange homogène, on va chauffer ces miels pour avoir de nouveau quelque chose de liquide, un bel assemblage et se retrouver en fait dans un pot avec un produit qui est harmonieux. Bon, passer par le fait de chauffer un miel pour avoir ce mélange, ça abîme en fait les miels parce qu'encore une fois, on va perdre ces enzymes qui sont précieuses. Et puis surtout, c'est une date de récolte. Le miel souffre d'une de ses qualités, c'est qu'un miel est 100% sucre. Donc un 100% sucre a la propriété de ne pas pourrir. Et nous, on nous a transformé le « ne pourrit pas » par « est consommable tout le temps ». Oui, c'est vrai, un miel est consommable tout le temps. Oui, si vous avez un pot de miel dans votre placard qui a 10 ans, vous pouvez l'ouvrir, le consommer, vous ne craignez absolument rien. En revanche, il serait peut-être temps d'expliquer aux adorateurs du miel et à nous consommateurs qu'un miel a des propriétés absolument merveilleuses et magnifiques dont je n'aurai pas assez de temps pour tout vous énumérer. Mais ça, on le tient du fait qu'il soit frais parce qu'il est très enzymatique. Et en fait, la dégradation des enzymes suit en fait la logique d'un tableau en fonction du temps et en fonction de la chaleur. Alors à température ambiante, je vous le dis, c'est 2 ans avant que la dégradation enzymatique commence à se faire.
Donc au maximum, dans les 2 ans, c'est l'idéal de le consommer.
Ah oui.
Et pour le consommateur, justement, c'est d'avoir une date.
C'est d'avoir une date sur votre étiquette.
Date sur l'étiquette, ok. Mmh.
Donc si vous avez la date sur l'étiquette, la personne, pas qu'il l'a mis en pot, hein, parce que je vous rappelle encore une fois que mise en pot, ça c'est un autre job, hein, mais l'apiculteur qui s'est occupé de ses petites abeilles chéries, hein, s'il vous donne et la date de récolte, et son nom, et l'emplacement où il a récolté son miel, vous avez un produit merveilleux, quoi que vous alliez et où vous alliez chercher vos miels en fait sur la planète.
Voilà, super, merci pour ces conseils. C'est vrai qu'on pense pas, on est un peu perdu dans tous ces labels bio, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile des fois de s'y retrouver dans tout ça et d'avoir un produit de qualité. Mm-hmm. Et on peut retrouver tes miels, donc les miels de Stéphanie, un peu partout.
Alors je dirais surtout dans vos magasins préférés, là où vous leur faites confiance. Et puis si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site internet où on explique les 3 grands axes en fait, de la récolte. Notre bonbon, la récolte de mai, notre fameuse princesse, la récolte de juin et le Superman. Et à savoir que je fais un petit clin d'œil à mes enfants et à leurs copains qui, à l'âge de 4 et 5 ans, quand j'ai commencé en fait, mon apiculture et que je leur ai fait goûter différentes productions, différents miels, ce sont eux qui les ont appelés comme ça. Le bonbon parce qu'ils trouvent que c'est un miel qui est tout doux, qui est gourmand. Et puis, mes enfants, quand ils étaient petits, en fait, je tournais le dos d'une cuillère. J'enroulais en fait, un peu comme une guimauve du miel dessus. Puis, ils partaient avec ça pour sucer leur sucette de miel aux 4 heures. La princesse, ça, c'est tout joli. Et puis, je remercie mes deux fils pour la comparaison. Quand ils étaient petits, ils regardaient beaucoup les Walt Disney avec les princesses et les princes charmants et tout ce qui va avec. Et en fait, quand ils ont goûté le miel de juin, ils m'ont dit « Maman, celui-ci, il est, tu sais, il est tout doux. Il est tout doux comme une fille. » Je dis « Bon, alors tout doux comme une fille, c'est un nom un peu long, ça, pour un miel. » Puis ils m'ont répondu « Bon, on n'a qu'à l'appeler la princesse comme toi. » Maintenant, ils ont 15 ans. Je ne suis pas tant sûre qu'ils auraient donné exactement la même définition.
Ça aurait pu changer de nom.
Donc, je l'ai gardé. Ça, c'est un bon souvenir de maman et d'enfant. Et puis, le juillet, il n'était absolument pas du tout de leur goût. Ils le trouvaient trop fort, trop présent, trop...
Trop fort en goût.
Papa des goûts d'enfant. Et donc, ils ont décidé de l'appeler le Superman parce qu'il était trop fort. Et j'ai trouvé ça tellement rigolo que finalement, j'ai gardé ces noms de bonbons, princesse, Superman. Et si maintenant, moi, je dois vous en faire une description, le miel de mai, c'est un régal le matin au petit déjeuner parce qu'il est doux, parce qu'il est gourmand, parce que c'est une invitation au plaisir. Sur une tranche de pain grillé avec du beurre, une tresse, c'est magnifique. Le miel de juin est un miel qui est très élégant, qui est vraiment fin. Pourquoi ? Parce qu'on a des fleurs qui vont être odorantes, mais pas omniprésente, et puis il y a de l'acacia aussi à l'intérieur, pas tout le temps, ça dépend des années, ça dépend de notre météo, mais ça donne un miel qui est particulièrement soyeux en bouche, qui va fondre, qui est magnifique sur un yogourt, par exemple, sur un bircher, qui aura une consistance plutôt tendre, mais qui peut avoir aussi un petit grain selon sa cristallisation. Et celui du mois de juillet, pour le coup, c'est ma préférence gustative à moi, parce qu'au mois de juillet, on a toujours une météo complètement différente, et alors là, on est vraiment dans ce que moi je considère être la superbe du tricotage des abeilles avec les fleurs qu'elles ont à disposition, où elles m'assemblent des parfums complètement différents qui n'ont rien à voir d'une année à l'autre, et je me retrouve avec des miels qui sont présents en bouche, qui sont ronds, ils sont chauds.
Superman peut changer d'une année à l'autre.
Ah oui, complètement. Et avec des pointes de châtaignier, mais sans amertume. Et quand vous laissez les abeilles tricoter à leur bon vouloir, en fait, et assembler différentes fleurs, elles me font toujours des mélanges de dingue. Alors que si moi, j'avais envie de piper le jeu, en fait, à la base, en disant « tu vas me faire du miel de thym, de romarin, de lavande, de châtaignier », ça veut dire que, apicultrice, j'ai décidé de poser mes ruches sur un champ bien précis, que pendant ce moment, elles vont manger que ces fleurs-là, pour avoir un monofloral. Pourquoi ? Parce que le consommateur, dans un magasin, il s'y retrouve. Et que quand il va acheter son pot de miel, il sait déjà à l'avance en fait qu'est-ce qu'il a comme goût à l'intérieur. Mais c'est archi super méga fou. En fait, on doit leur faire confiance et on doit les découvrir la superbe de ce qu'elles savent faire. Les abeilles, en fait, c'est comme un chef de cuisine avec son talent d'assemblage que nous n'avons pas concrètement.
Donc laissez-les travailler gentiment dans leur coin. Donc on peut aller sur lesmielsdestéphanie.ch.
Volontiers.
Et si on veut, tu as parlé de ce monsieur qui avait parrainé une ruche.
Oui.
Donc il n'y a pas seulement les entreprises qui peuvent parrainer une ruche, il y a aussi les particuliers. Comment ça fonctionne si on veut t'aider ?
Si on veut m'aider, il y a tout plein de façons de le faire. On n'est pas obligé de parrainer une ruche dans son ensemble, si le budget est trop important. On peut tout simplement faire un don à la Fondation Arche des Abeilles. Je vous invite à aller sur le site, à lire ce que nous faisons, ce que nous proposons, l'action que nous avons aussi auprès de la jeune génération, qui est vraiment hyper importante pour nous. Parce que je dis souvent ça à mes enfants, je trouve que de plus en plus, on vit dans un monde de preneurs. Les gens prennent. Et de moins en moins, en fait, dans un monde où les personnes vont donner. À l'exception de tous les parrains qui m'entourent. Et quand je passe des années compliquées, des fois difficiles, à cause de la météo ou de soucis avec les abeilles, j'ai une chance extraordinaire. C'est que je n'ai autour de moi que des personnes merveilleuses qui sont là pour me dire « Allez, on va t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Allez, tiens, tu vois, dans mon jardin, alors j'ai changé ces fleurs d'ornement, et puis là, j'ai planté des fleurs parce que j'ai lu dessus, elles produisaient du pollen et puis du nectar pour les abeilles. » Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Déjà, pour les personnes qui ont un jardin, on peut peut-être regarder nos jardins d'une façon un tout petit peu différente et de se dire que notre jardin est une source d'alimentation pour les insectes de façon générale. On a beaucoup parlé des abeilles domestiques, avec les abeilles, avec les miennes en fait, qui sont des abeilles qui font du miel. On n'a pas évoqué les abeilles sauvages qui sont aussi extrêmement importantes. On a plus de 615 espèces d'abeilles sauvages qui ont été recensées en fait en Suisse. Malheureusement, elles sont mises à mal parce qu'elles perdent leurs habitats. Et puis, tentons comment elles sont confrontées à des produits qui ne leur conviennent pas du tout et qui vont malheureusement en fait les tuer, les affaiblir, en tout cas leur porter préjudice. Et toutes nos abeilles, tous nos insectes sont importants. Donc planter des fleurs, jeter des graines dans une campagne, c'est un joli geste qu'on peut faire, enfin en tout cas notre jardin parce qu'on le maîtrise, et c'est vraiment une très belle action. On peut aussi laisser en fait des petites branches ou créer des habitacles, des coquilles, d'escargots morts. Les abeilles sauvages adorent ça. En fait, souvent, on les appelle des abeilles coucou. Elles vont prendre le nid de quelqu'un pour aller reformer une petite population.
Ok. Bah, merci en tout cas pour ces précieux conseils.
Avec plaisir.
Donc, il y a plusieurs moyens finalement de soutenir la Fondation.
Oui.
Par des dons, ou par le fait de parrainer une ruche, ou par de l'action, comme tu l'as énoncé, planter des fleurs, des graines.
Et je remercie vraiment, très sincèrement, du fond du cœur, tous mes parrains qui me donnent la possibilité, depuis de nombreuses années, de pouvoir travailler au rythme des abeilles et non pas l'inverse. L'apiculture n'est vraiment pas... on rentre dans un problème important, mais n'est pas considéré comme une profession. Le miel n'est pas proposé à sa juste valeur en termes de prix et ne permet pas en fait aux personnes qui aiment leurs abeilles de pouvoir vivre de leur passion et de vivre de l'apiculture. D'où différents travers avec des miels qui arrivent de pays différents ou qui ont été manipulés pour qu'ils deviennent rentables. Parce que pas forcément positionné en fait au juste prix. Aujourd'hui, soutenir la Fondation Arche des Abeilles m'a donné à moi la possibilité en fait de me soucier que de mes abeilles et non pas du reste. Et ça, je le dois à mes parrains qui me soutiennent. Et grâce à eux, on prend notre temps. On fait ce qu'il faut pour elles. On les ouvre le moins possible de ce qu'on doit les ouvrir. Et on est toujours centré en fait sur leurs besoins à elles et non l'inverse. Et je préfère, encore une fois, planter les bonnes fleurs aux bons endroits, mettre mes abeilles au bon endroit, leur trouver des terrains qui soient pour elles, des hôtels 5 étoiles, plutôt que de me concentrer sur d'autres choses qui sont moins importantes. On ne l'a pas dit, mais les abeilles dans leur ensemble pollinisent 80% des fruits et des légumes que nous consommons. 80%. Donc, c'est évident pour tout ce qui est pommes, framboises, fraises, abricots, tous ces fruits et que sais-je. C'est un peu moins évident pour d'autres choses comme la moutarde. Et c'est un exemple que j'aime bien prendre aussi avec les enfants. On est producteur de colza chez nous au printemps, mais on est aussi producteur de moutarde au mois de juillet. La moutarde, avant d'être une graine, c'est une fleur. Le sarrasin, avant d'être un céréale, c'est une fleur aussi. Donc, c'est hyper méga important d'avoir des abeilles pour polliniser notre nourriture. Mais pas que. Les abeilles pollinisent aussi toutes les fleurs qui redeviendront fleurs, qui vont elles-mêmes nourrir des animaux. Ces animaux qui nourriront d'autres animaux. Donc c'est une chaîne, c'est un maillon qui est vraiment important. Et c'est un insecte qu'on doit protéger et privilégier pour ne pas avoir de déséquilibre en fait dans notre biodiversité. Mais tant les domestiques que les sauvages.
Eh bien, merci en tout cas pour ce message. Et merci Stéphanie pour ton temps ce matin avec nous sur Helvetalk.
Avec plaisir.
C'est maintenant le temps de clôturer ce nouvel épisode d'Helvetalk. Et au plaisir de vous voir très prochainement sur un nouvel épisode. À bientôt.